Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bienvenue à vous tous et toutes dans ce deuxième épisode d'Explore où on explore la foi chrétienne à trois avec Dimitri, Sophie et moi. On essaie d'explorer cette foi chrétienne dans une perspective protestante réformée. On m'a dit hors antenne qu'il fallait que je précise réformée, hein Sophie.
Absolument.
Là, c'est petite blague à part, mais c'est vrai que c'était important, c'est peut-être quand même important de le redire. Le protestantisme, c'est large, quoi. Je pense, il y avait ça un peu dans ta remarque, non ?
Oui, c'est ça. Et puis que, bah voilà, notre perspective spécifique, c'est réformée. Je crois pas qu'on puisse parler pour tous les protestants. Ouais. Voilà, il y a les luthériens, les évangéliques.
Les pentecôtistes, les baptistes. Enfin, on fait partie
d'une grande famille.
Ouais, c'est ça. Et du coup, là, aujourd'hui, l'idée, c'est, après avoir discuté de nos parcours de foi, et on a parlé de transformation, d'expérience, de changement qu'on a vécu en lien avec ce parcours de foi, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça change, en fait ? Bon, d'accord, c'est très bien, la foi chrétienne, bon, il y a des gens qui la vivent, je sais pas s'ils l'ont, mais ils la vivent ou quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que ça change d'avoir ça ? Et puis, on voulait se frotter dans ce deuxième épisode à cette question. Et puis, moi, je l'avais tourné comme ça dans ma tête, c'est que qu'est-ce que ça change, c'est aussi de se dire qu'est-ce que ça donne à voir, comment on en parle, si d'autres parlaient de la foi chrétienne, comment est-ce qu'ils en parleraient, comment est-ce que nous-mêmes on parle de cette foi. Enfin, voilà, c'est moins d'être dans l'histoire, au fond, dans nos histoires de vie, mais peut-être plus quand même de commencer à risquer, quoi. C'est des bouts de définition ou d'essayer de... Voilà, ouais, c'est ça, peut-être de définir un peu ce que c'est que cette foi chrétienne, mais... comme j'espère vous l'aurez retenu du premier épisode, ce moment-là, il est que partiel. C'est juste un moment de ce que ça peut être la foi chrétienne. Sophie, c'est toi qui te colle à la chronique maintenant ? Alors on y va.
Ce que je voulais vous partager maintenant, c'est quelque chose qu'on me disait assez souvent. Quand j'ai commencé à devenir chrétienne, pour le dire assez simplement, on me disait parfois, et ça arrive encore en fait, devant des gens qui ont peu de notions de ce que c'est la foi, on me disait, ah mais les questions existentielles, la vie en général, ça doit être plus facile maintenant que tu es chrétienne. Mmh. Et moi, j'ai toujours trouvé ça faux en fait. Je crois pas que ce soit plus facile de regarder le monde et d'évoluer à l'intérieur du monde quand on est chrétien ou chrétienne. En revanche, ce qui change pour moi, c'est d'une part que je regarde le monde autrement, avec à la fois une lucidité par rapport à l'humanité dans ce qu'elle a de plus fragile, de plus brisé, pour utiliser un vocabulaire un peu plus théologique peut-être. Et surtout, bah, surtout avec ce regard d'amour qui nous invite à habiter le monde avec la figure de Jésus, ce regard que Jésus portait sur le monde. Pour moi, c'est un regard de lucidité et d'amour, et c'est ce regard-là qu'on est appelé à avoir, évidemment d'abord sur nous-mêmes, et puis avec cet horizon de se mettre à la suite du Christ, à suivre l'exemple d'un homme en qui on peut puiser la force de, pour moi, c'est vraiment ça, de pas céder à l'obscurité, que ce soit la nôtre, celle des autres ou celle du monde. Et puis à entamer, moi, ce que j'appellerais un chemin de poésie, au sens de création, d'action, de liberté, avec lui, devant et à nos côtés. Et pour moi, ça se traduit assez concrètement par des nouvelles habitudes au quotidien. Alors, c'est pas toujours facile de les suivre, mais voilà, pour moi, c'est la prière, c'est la pratique du silence, c'est la communauté aussi. Et puis, c'est cheminer avec des lectures, avec une manière aussi de grandir dans sa foi. C'est un vrai cheminement qui se vit en dialogue avec Dieu et avec d'autres. Alors, ouais, je pense que je dirais ça. Je dirais vraiment que la foi m'aide à habiter le monde, à habiter ma vie intérieure, à tenir debout face au malheur, à vivre mieux avec moi-même et avec les autres, et puis aussi à m'engager, à donner le meilleur de moi-même dans, dans ce que j'essaie de construire dans ma vie avec les autres. Mais du coup, c'est ça qui m'aide et pas les réponses toutes faites à toutes des questions existentielles, parce qu'elles m'ouvrent les yeux et aussi parce qu'il y a un chemin, qu'il y a un apprentissage constant, une lutte parfois, mais aussi et surtout, je dirais, de la joie. Et voilà, pour moi, c'est source de bonheur immense, la présence de Dieu dans ma vie.
Ça va, c'est pas dense. Merci beaucoup, Sophie. Wow, ok, je crois qu'on a plein de choses à grignoter sur la base de ce que tu viens de nous proposer. Et puis aussi un bout de dévoilement quand même aussi sur voilà, quel sens a cette foi chrétienne pour toi, très pratiquement tout d'un coup aussi. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs pistes qu'on pourrait explorer. Dimitri, je te regarde toi parce que parce que tu n'as pas encore pris la parole, mais vas-y, sur quelle voie tu veux poursuivre?
Oui, là j'ai été marqué par un mot dans ce que tu viens de nous dire, qui est le fait d'habiter, que la foi t'aide à habiter le monde. Et c'est vrai que ça a fait surgir en moi pas mal d'images, en fait. Et c'est vrai que je veux pas trop généraliser non plus, mais tout ce que tu as traduit de ta pratique aussi, au fond, c'est aussi une réinsertion dans une, bien sûr, dans l'habitabilité du monde, mais dans une temporalité aussi. J'ai senti ça dans ce que tu disais.
Tu veux dire quoi?
Dans les pratiques méditatives, la prière, les. Au fond, ce que j'ai entendu, c'est vraiment un repositionnement radical par rapport à un monde que je comprends, mais ça, c'est un peu en filigrane dans ce que tu dis, peut-être. Comme étant un lieu d'errance permanent. Nous sommes happés par des images, constamment, par des écrans, par des préoccupations, par des soucis, évidemment. Et c'est tout à fait légitime, ça fait partie vraiment de la condition humaine, c'est pas du tout quelque chose que, voilà, qu'on va juger, au contraire. Mais c'est vrai qu'au fond, j'ai senti que la foi pouvait être à un moment donné ce moment d'ancrage où on se réapproprie son temps, soi-même, son destin quelque part aussi, dans une relation voilà qui porte ce nouveau regard sur la vie à travers le regard de Jésus lui-même, dans la compréhension, l'amour, l'accueil justement de la vulnérabilité et de cette dimension on va dire exodale.
Alors, exode, ouais. Errance, ouais, c'est en lien avec l'errance. Ouais.
De l'errance, exactement, de notre condition.
Je veux rebondir là-dessus, parce que j'ai été marqué par ce que tu as dit juste sur la temporalité, Dimitri, et toi, tu associes ça avec la prière, les temps de silence, hein, c'est ça? C'était là que tu...
Oui, je pense que dans l'habitation du monde, il y a aussi cette dimension du temps.
Ouais. Si j'essaie de refigurer ça, ou de le traduire de ce que je comprends de ça, ou du rôle que prend la prière, tu me diras, là, j'aimerais t'entendre, Sophie, si ça a un sens pour toi, ce que je vais dire. Mais, donc, dans la temporalité, c'est dire, voilà, je suis dans le flux. Autrement, je me laisse porter par les événements. Tu as dit, on est happé par tout plein de trucs. Après, je suis en crise, je suis pas en crise. Enfin, il peut se placer plein de choses dans le flux de ma vie, en gros. Et puis là, tout d'un coup, la prière, tout d'un coup, ou le temps de silence, de méditation, temps de lecture de la Bible aussi. Ce serait un autre niveau.
Ouais, pour moi la lecture elle est plutôt communautaire, telle que je la vis.
Mais donc c'est ok, donc non, on va pas mettre la lecture de la Bible là-dedans, mais donc prière, méditation, c'est des moments où consciemment je choisis d'interrompre quelque chose, et c'est ça qui donne un autre rythme au flux.
Ouais, clairement. Enfin,
c'est comme si j'ai le flux qui coule et là je dis non stop. Et au fond Mais alors, c'est ça, je trouve qu'il y a peut-être un truc, je pourrais me dire, je deviens maître du flux, du coup, je choisis quand je pose la prière et je peux maîtriser ma vie. Ben voilà, j'ai une application de méditation, elle m'aide justement à me recentrer, à me repositionner au quotidien, à justement pas juste être en train d'être envahi par toutes les sollicitations, le travail, la famille, je sais pas moi, tout ce qui demande mon attention au quotidien. Non, là je peux couper ça. Donc ça c'est pour moi ce que je rejoins avec cette idée de redevenir un bon maître de son temps. Je sais pas si t'as dit ça comme ça, Dimitri, il y avait quelque chose comme ça. Mais ce qui me questionne là-dedans, ouais, mais j'ai besoin de Dieu pour ça. Enfin,
Pour moi, ça fait partie d'entretenir la relation, ce temps que je prends, je dirais, à la relation avec Dieu.
Donc
c'est là où je vois le lien.
Ok.
Effectivement. Ouais. Après, je pense qu'il y en a peut-être qui parleraient ça autrement. Enfin, tu parlais d'une manière d'habiter le monde et d'un ancrage. Moi, effectivement, j'ai eu l'impression à un moment donné que je voulais plus habiter le monde. Et se poser la question de OK, qu'est-ce que j'en fais de ça. Et là, il y a un cheminement qui me dit, en fait, c'est possible de réconcilier le rapport que tu as au monde. Et là, il y a peut-être des racines assez profondes de ma foi.
Sans forcément entrer dans un truc ultra intime, quand tu dis plus à un moment donné, c'est plus possible d'habiter le monde.
Enfin, bah, on parlait de la crise.
On parlait de la crise
existentielle dans l'épisode précédent.
Ouais.
Bah, c'est ça. C'est comment faire pour avoir envie de vivre aussi, pour retrouver cette idée. De désir d'avancer. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se construit avec les autres, avec aussi un cheminement, une perspective que probablement, tu parlais de toutes les images, etc. C'est une des caractéristiques de notre société actuelle. On nous dit le sens ne nous est plus vraiment donné, quoi. On dit, bah voilà, il faut que tu fasses ton propre chemin, etc. Il y a quelque chose d'aussi assez vertigineux, quelque part.
Démerde-toi.
Exactement. Et ça, c'est un truc où des fois, peut-être que... Enfin, moi, je dis assez souvent que les chrétiens qui m'inspirent ou avec lesquels je sens une parenté... c'est ceux qui ont fréquenté un peu de leur propre obscurité. Et c'est quelque chose que je... C'est peut-être quelque chose de générationnel aussi. C'est pas quelque chose... Enfin, je sais pas, je serais curieuse de vous entendre, mais c'est quelque chose que je ressens pas toujours avec les chrétiens avec qui on fait communauté. Aussi parmi ceux pour qui on a l'impression... qu'ils ont grandi encore dans ce monde où c'était une évidence que voilà, il fallait avoir un engagement de foi, et puis des fois qu'ils vont au culte le dimanche, des fois on a l'impression plus pour répondre à une nécessité structurelle. Peut-être que là il y aurait un ancrage dans le temps aussi, peut-être qu'on retrouverait
Parce qu'il faut aller au culte, en fait.
Voilà, il faut, et ça fait partie de ce qui est une vie bonne.
Mais j'ai pas choisi ce que c'est cette vie bonne.
Exactement.
C'est ce qu'il faut
faire. Elle m'a été proposée. C'est ce que j'ai toujours vécu. C'est ce que j'ai toujours habité, etc. C'est ce que me disent ces personnes-là. Et là, moi, je sens un gap immense parce que j'ai pas du tout ce sentiment-là. Voilà. Peut-être. C'est pour ça que moi, des fois, je me considère comme une chrétienne post-chrétienne. Enfin, je sais pas comment dire, ou post-dénominationnelle, ou voilà, parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, justement, de très... on pourrait parler de la sécularisation selon Taylor ou comme ça.
Dimitri, je te voyais tendre la tête juste avant. Je ne sais pas si tu voulais rebondir.
Non, je suis complètement...
saisi.
J'adhère à ce que j'entends. Oui, quand tu parles de Taylor, bah c'est dans cette créativité justement.
Qui est Taylor?
Charles Taylor, c'était un philosophe canadien catholique qui est maintenant assez âgé.
Il est encore en vie, je crois.
Il doit être tout juste en vie.
C'est pas. Wikipédia dira à ceux que ça intéresse. Oui.
Non, je crois qu'il est pas mort. Je crois pas.
Bon, voilà. Philosophe canadien, ok.
Et en fait, qui a écrit passablement d'ouvrages sur la sécularisation, surtout un ouvrage principal sur la sécularisation, puis il a aussi travaillé sur le sujet moderne, on va dire, sur la manière dont on a de considérer notre moi.
Qui je suis.
Voilà, qui je suis.
Ces gens qui font des choses.
La manière que nous avons de nous comprendre et bien sûr à une histoire. Et il refait en fait l'historique en fait de cet avènement en fait du sujet moderne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on insiste sur cette dimension là, c'est la dimension des transformations créatrices, on va dire, et surtout du du maintien en fait des préoccupations ancestrales quelque part portées par les religions, qui ont selon lui n'ont pas disparu mais ont subi des transformations notables. Voilà, c'est surtout ça le cœur du propos.
J'essaie de faire le lien avec ce que Sophie a dit avant d'un gap générationnel. Donc de se dire que tu as toute une génération de chrétiens qui est chrétien par habitude au fond et par convention sociale.
Mais je serais pas aussi stricte que ça. Ouais. Je pense pas. Je pense qu'ils ont c'est une réponse à ces mutations mais qui doit être un peu différente de ce que je vis moi.
Ok. Où
je pense que pour moi ça a été. Je pense qu'il y a des îlots qui ont peut-être survécu mieux que d'autres à certaines mutations sociales. Moi, je me reconnais tout à fait dans le sujet moderne de Taylor, quoi. Enfin, j'ai lu.
Tu te sens pas comme quelqu'un d'absolument distant du monde et de ce que la société te propose.
Voilà, exactement. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être un pur produit de ma société.
Ouais.
Et que du coup, bah là, la foi, elle me propose quelque chose, elle répond. Un certain besoin justement d'ancrage, quoi.
Oui.
Ouais, assez clairement.
Disons que on va pas s'attarder trop là-dessus, mais au fond chez Taylor, il y a quand même des gaps générationnels hein, que t'as aussi t'as exprimé. Il y avait la génération des années 50-60 qui était clairement liée à l'engagement. Ensuite, il y a eu les crises de type existentialiste justement après les années 60. Donc en fait, il parle aussi de ces différents qu'on est porté effectivement par des zeitgeists quelque part, en fait des esprits du temps, et qu'effectivement probablement que tu fais l'expérience de ces transitions parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans certains dispositifs de pensée légitimes, hein, toujours.
Enfin, des gens qui ont été éduqués dans les années 50, on n'était pas du tout dans le même monde.
Ouais. Exactement. Donc au fond, c'est vrai que dans cette habitation du monde, on est confronté effectivement à des narrations générationnelles, quoi, qui sont parfois on peut avoir aussi des hiatus entre les différentes générations, mais c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui l'individu est plus en situation de devoir bricoler quelque part, mais au sens positif. Le terme bricolage, chez les anglo-saxons d'ailleurs, dans le domaine du religieux, est qualifié de manière très positive. Ouais.
La personne en fait quelque chose.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle capacité de l'individu justement à s'approprier la foi, les contenus de la foi, les régénérer, les réinterpréter en fait, tout en étant bien sûr articulé à un passé, à des traditions et valorisé.
J'essaie de, parce que là on touche à pas mal de choses différentes, complexes, enfin bref, aussi toute une histoire de la société. Je reviens vers toi, Sophie. Habiter le monde d'une certaine manière, d'habiter le monde qui donne une réponse à une crise existentielle aussi, c'est ça que tu as indiqué.
Ouais, je dirais qu'il accompagne.
Ou qui accompagne, ou qui permet de vivre avec cette crise.
Ouais, c'est ça.
Et là-dedans, aussi de constater que, ben, apparemment, ça c'est quelque chose que tu peux dire pour toi, que tu pourrais pas forcément projeter sur d'autres, ou que tu vois que chez d'autres ça s'articule un peu différemment.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aurais bien aimé vous entendre aussi sur comment est-ce que vous comprenez les choses, vous. Moi, ça m'arrive assez souvent de me sentir assez seule en paroisse dans mon métier parce que j'ai l'impression qu'une partie du travail que je fais, c'est distiller les restes d'une ancienne manière de vivre la foi au village des inexorables Gaulois, non, comment est-ce que c'est dans
au dernier des Mohicans,
ceux qui résistent encore à l'envahisseur. Voilà, donc je me questionne un peu, et en même temps un sentiment de parenté très très fort qui peut se vivre avec tout d'un coup quelqu'un où je me dis ah ouais, waouh, lui il a aussi été rencontré au cœur de son obscurité, quoi, par quelque chose.
Ouais, je vais rebondir là-dessus. Quand je pense à cette question, en gros, être chrétien, ça change quoi, et comment toi tu es parti sur cette idée de manière d'habiter le monde. Chez moi, il y a sans doute un bout de truc qui est pas encore complètement aligné, où je pense que, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu deux facettes entre la partie de moi qui est orientée le monde d'aujourd'hui, la société, très très. J'ai un groupe de musique où en même temps je suis identifié comme le chrétien. Je suis pas en train de moi forcément être proactivement dans du rite ou dans des prières, dans des chants, dans, voilà, avec eux, bah, juste, voilà, bah, lui, il est chrétien, quoi. Et puis, des fois, ça suscite des fois des discussions, ça, pas mal de blagues, mais bienveillantes, hein, ça marche bien, mais. Et donc, il y a ce côté-là, et puis il y a cet autre côté du celui qui est engagé dans la communauté, qui connaît les codes, qui sait comment suivre un culte, qui sait faire le chrétien, mais c'est pas dans le sens que je me force à le faire, c'est juste que je vois que c'est, et je me questionne, est-ce que c'est chez moi deux trucs complètement séparés et qui communiquent jamais, mais intérieurement j'ai pas l'impression que c'est le cas, ou est-ce que c'est juste moi qui est fait avec, que je modularise, bon bah il y a des gens avec qui j'apparais comme un chrétien, alors soit parce que je suis un professionnel, un pasteur, soit parce que c'est un groupe d'amis avec qui on partage cette foi et qu'on en parle, puis il y a d'autres personnes avec qui je fais pas ça, et est-ce que, qu'est-ce que, ouais, j'espère être authentique en fait à chaque fois au milieu de tout ça, de me dire bah oui c'est toujours moi, hein. En tout cas le, mais qu'est-ce qui fait que, moi ce serait ça mon enjeu de trouver une réponse à cette question-là, qu'est-ce qui fait que quand je suis avec mon groupe de musique, bah oui effectivement ma foi elle change quelque chose en fait. Et je pense que parce que c'est pas lié juste au fait que je dois remplir un rôle professionnel, c'est pas non plus lié juste à la convention des chrétiens entre eux. C'est non, là dans ce lieu-là, effectivement, il y a ouais, la vie de foi a des conséquences, a vraiment des conséquences en fait. Je peux pas m'appuyer juste sur un groupe ou un réseau qui va juste valider ce que je dis. Ou ce que je suis, etc. Non, ben là, dans ce groupe, non, ça va être un bout de challenger, et puis je dois répondre à cette question, mais c'est quoi, en fait, ton truc ? Et j'avoue que répondre à cette question-là, c'est pas tout à fait évident pour moi.
Bah, logiquement, ça devrait te rendre meilleur, quoi.
Ouais, c'était la question qu'on posait à Sophie, hein. Au fond, ça devrait, tu devrais avoir une meilleure vie. Mais c'est vrai, hein, à part ça, là, c'est quelque chose que j'entends, on blague, mais ouais, tu... Non, ouais, je sais pas si c'est quelque chose que moi, là, j'entends dans ce groupe-là, mais dans le sens, tu veux pas juste lui demander un coup de main, ou... genre, on a un truc à faire, demande à Dieu qu'il intervienne un peu pour soutenir ça.
Bah, j'entendais ça au sens moral.
Ouais.
Ça veut dire que c'est okay. Pas forcément un moralisme, en tout cas pas.
Ouais.
Mais que...
Je devrais être un saint. C'est ça que ça sous-entend.
Je dirais pas un saint, non. Parce qu'au fond, un saint peut faire plus de dégâts qu'autre ouais, chose, ouais. Selon les cas. Ouais. Mais non, le sentiment peut-être que la visée du juste et du bien reste un horizon, voilà, malgré les événements, les situations... Mm.
Mais c'est plutôt la sanctification que le...
Oui.
Oh, alors là, on est sur des termes techniques, là, tout d'un coup.
Oui, on est sur des termes techniques, mais ils sont pas si cons.
Vas-y, alors développe ton idée.
Bah, c'est pour moi, alors, bon, la sanctification, c'est un concept plutôt de chez Calvin, hein, si je dis pas trop de bêtises.
Oui, oui, oui.
Mais pour moi, c'est vraiment cette idée-là de dire on est en chemin à la suite du Christ dans aussi faire... Enfin, quelque part, laisser Dieu habiter en nous, pour reprendre cette image, moi je parlais d'habiter le monde, bah voilà, c'est aussi Dieu qui habite en nous pour pouvoir faire émerger le divin à l'intérieur de nous qui nous permet d'agir dans un sens, alors on pourrait dire moralement juste ou moralement bon. Après, bah voilà, le monde est complexe, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une forme de discipline aussi, et ça, Calvin le disait aussi très bien. Moi, je le vis vraiment comme une exigence et un constat aussi sur moi-même, parfois, de dire, ouais, je n'arrive pas à faire le bien que je devrais faire, quoi.
Mais donc, ça veut dire qu'en tout cas, il y a un bout d'exigence... Ouais, justement. Et un bout d'exigence que le bien, c'est pas égal dans ce que je fais.
Mm-hmm.
Le bien, c'est pas égal dans ce que je fais. Et quelque part, je me tiens même en tant que chrétien garant de, dans ce monde-là, il y a quelque chose à en dire ou de cette exigence.
Oui, mais moi, je le vivrais quand même dans quelque chose enfin, c'est un combat individuel presque que je vis. Je le vis pas forcément comme quelque chose que j'impose aux autres. Je pense qu'il y a, quelque chose de ce côté-là.
Tu cherches pas à changer. De toute façon, t'as parlé de l'obscurité à un moment donné, qu'il y a quelque chose à faire face par rapport à ça, mais c'est au fond une lutte avec laquelle on est chacun pris.
Oui, je dirais.
Mais après, la manière dont on répond, dont la lutte se fait, c'est personnel.
Oui, parce que, alors bien sûr, on peut parler, on peut discuter morale et puis dicter des principes moraux, etc. Moi, je ne crois pas que quelque part, les chrétiens soient meilleurs que les autres. Mais ils devraient essayer de mieux faire.
Ok. c'est rigolo parce que, donc, sur cette question, un chrétien, enfin, être chrétien, qu'est-ce que ça change? Je trouve que c'est effectivement... Pour moi, j'ai tellement de doutes avec cette question-là parce qu'on est très vite sur l'exception, ou justement, comment le décrire d'une manière où, à la fois, j'assume, effectivement, tout le monde n'est pas, tout le monde ne se revendique pas du christianisme, de la foi chrétienne dans la société. Il y a des gens qui font pas ça. Il y a des gens même qui, c'est pas trop le cas en Suisse. Il y a des gens qui s'opposent à ça, qui vont poursuivre ça. Voilà. Donc. Il y a une ça change quelque chose apparemment d'être chrétien. Ça a des conséquences. Ça fait quelque chose. Ça d'un côté et en même temps. Mais ça je pense qu'on y reviendra à d'autres moments. Pour moi, cette foi chrétienne, c'est pas du tout. Enfin, moi, ce que j'entends, tu parlais du regard de Jésus et je pense qu'il faudra maintenant qu'on retourne à cette thématique-là parce que ça me semble important. C'est effectivement Jésus, il regarde tout le monde et il s'en fout s'ils sont chrétiens. C'est pas la question. De savoir si au bout du chemin, je revendique cette identité. On s'en fout. L'exception. Et en fait, la question, un chrétien, qu'est-ce que ça change? Peut-être dans ma vie, je dois assumer qu'effectivement ça change quelque chose. Mais en fait, je m'en tape. Je dis ça un peu, peut-être à la hache, mais y a quelque chose de ce truc-là. Et du coup, quand tu viens me dire, bah oui, mais il faudrait quand même. Enfin, où y a une attente de. Ils sont pas les meilleurs, mais ils disent quand même quelque chose du meilleur ou d'une attente de bien et tout. Je comprends ça et en même temps j'ai un effet de je sais pas je sais pas si je peux faire avec ça.
Bah, je dirais que justement du point de vue chrétien on sait qu'on n'est pas les meilleurs.
Voilà et c'est ça la différence avec beaucoup de choses. Pour moi c'est ça. Pour moi c'est d'abord reconnaître en fait mon envie de faire le bien elle est aussi ancrée dans ma conscience que je fais le mal et c'est pour ça que ça m'agace quand on est que dans un discours un peu Dieu ceci cela ultra positif etc. Pour moi et je pense que la pensée réformée c'est quelque chose ça répond de façon alors des fois c'est trop pessimiste des fois on s'en sort pas et puis il faut aller chercher du côté peut-être anglican ou dans d'autres traditions orthodoxes qui ont pensé les choses peut-être un peu plus un des élans plus positifs de l'humanité mais il y a quelque chose de se regarder dans sa propre obscurité et qui pour moi aucune philosophie aucun n'a thématisé ça aussi bien quelque part.
Ok
mais c'est peut-être parce que en fait mais ça c'est une question que j'aurais moi. Moi, peut-être que je suis chrétienne parce que je suis un peu sombre au fond. Non, mais c'est vrai. Mais on prêche tout le temps la lumière. Pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de prêcher la lumière? Mais parce que je crois que je suis quelqu'un de fondamentalement sombre. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais encore eu le courage de le dire en chair. Mais j'espère qu'un jour, je pourrais trouver une formulation qui permette à d'autres de connecter là-dessus. Mais voilà, moi, j'ai besoin qu'on prêche la lumière. Et j'ai besoin de prêcher la lumière. Et parce que sinon, je ne m'en sors pas dans la vie.
Tu te laisses engloutir par tout un tas de trucs. Ouais.
Donc, mais après, j'admets tout à fait que la lumière peut se trouver tout à fait ailleurs. J'admets tout à fait que, voilà, peut-être d'autres ont moins besoin parce qu'ils sont naturellement plus lumineux. Je ne sais pas. C'est une vraie question que j'ai.
Ouais. Moi, c'est, je pense, ok, je crois que j'arrive à gentiment discerner où est l'enjeu pour moi. Parce qu'il n'est pas... Je raisonne avec ce que tu dis sur l'obscurité, mais il est plutôt sur... moi, c'est la conviction que fondamentalement, c'est pas nécessaire de se faire du mal parmi. Moi, il y a plus quelque chose dans ce registre-là. De fait, on le fait. Hein. De fait, il y a plein de situations où, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a blessé quelqu'un, on fait du mal à quelqu'un, ou au monde, ou autour de nous, ou vivant, peut-être en général, il faut peut-être élargir aussi. On a, ou au fond, dans, par qui je suis, par ce que je fais, j'ai entamé cette vulnérabilité que tu as évoquée, j'ai créé une plaie, quoi. Et au fond, sur la base de ça, il y a du ressentiment, il y a des gens qui commencent à se détester, et puis au bout du compte, on se parle plus, ou pire que ça, on veut exterminer l'autre, enfin, il y a tout un tas de pistes possibles. Et au fond, pour moi, dans l'idée de la foi chrétienne, c'est en tout cas, il y a un nom à ça. Enfin, il y a quelque chose, pour moi, qui, à la fois, assume, ben, c'est comme ça. Il y a des choses que je peux pas, de mes propres forces, réparer. Mais c'est, premièrement, c'est pas une raison d'en rajouter une couche. Et en fait, il y a vraiment quelque chose d'autre à dire au sujet de ces relations, de cette manière de vivre où peut-être c'est quand même possible. Il y a un endroit où c'est possible de vivre ensemble, en fait. Et moi, je dirais, au fil de la discussion, en tout cas, c'est ce que je dirais maintenant, être chrétien, ça change quoi, ça? Dans le même registre que ça permet d'assumer que oui, on se fait du mal et c'est vrai, on peut pas l'effacer, et il faut se confronter à ça. En même temps, justement, et c'est lié à la présence de Dieu pour moi, ça c'est clair, c'est que un moment où une relation qui a été tellement martyrisée peut quand même si à notre échelle c'est impossible. Tu penses à des relations d'abus, par exemple, ou j'en sais rien, des populations qui ont vécu des génocides. Enfin, on peut citer des exemples, ou simplement une relation qui s'est mal passée entre un père et son fils, le père est décédé, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Eh bien, il y a un lieu, une relation où c'est pas le fin mot de l'histoire, en fait, et qui m'encourage à quand même continuer à pas juste me replier sur moi et me dire bon bah puisque c'est comme ça je défends, les gens sont agressifs du coup je dois me défendre et me refermer. Non, je peux quand même prendre le risque d'une vulnérabilité qui se replie pas sur elle-même et qui va quand même à la rencontre au final. Et je dirais pour moi, être chrétien ça change quelque chose à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que justement dans l'histoire et le regard de Jésus, je vois et je découvre quelqu'un qui est allé jusqu'à mourir en vivant comme ça, qui a vu le monde d'une certaine manière, qui est parti d'une certaine manière à la rencontre du monde et des gens qui le peuplent. Et ben ça, peut-être qu'on en reparlera, mais quand on dit qu'il est ressuscité, c'est dire, ben ouais, mais c'était pas le fin mot de l'histoire, en fait, cette mort qu'il a reçue, quand même. Donc être chrétien, ouais, je pense que ça change quelque chose, parce que je veux vivre ce lien possible, malgré tout, et que moi, je pense que... À partir de Jésus, c'est en fait, très concrètement, c'est devenu possible. Je pense qu'il se joue là, en fait, pour moi. Merci d'ailleurs, parce que j'aurais été incapable de le formuler comme ça avant qu'on en parle. Voilà, maintenant j'ai déroulé mon truc.
Oui, j'ajouterais... comment dire? À partir de là... C'est qu'en fait, on se donne une forme de disposition... C'est pas tant le fait que tout à coup je deviens chrétien, je pourrais solutionner certains aspects de la condition humaine, ouais. Mais ça nous permet en fait d'avoir les ressources pour nous réconcilier avec une part sombre, en l'occurrence aussi, de notre condition. Ça veut dire qu'en fait, j'essaie d'agir de manière juste, sachant que ce sera un bien transitoire et qu'il ne sera pas absolu, ouais. Que mon engagement sera... peut-être pas tout entier, alors qu'on est très souvent dans l'exigence morale d'être tout entier dans tout ce qu'on fait. Et au fond, je pense que justement, la ressource, on va dire, chrétienne, c'est au fond d'acter le fait que non, on n'est pas si entier que ça. Il y a toujours une part de nous-mêmes qui résiste. Qui résiste même au bien, fondamentalement, dans lequel je ne me reconnaisse pas pleinement. Et en fait, ce bien incomplet que je suis appelé à faire en tant qu'humain, nous sommes tous en tant qu'humains appelés au bien et à la justice. C'est pas une spécificité chrétienne.
Non.
On n'a pas renoncé à la justice une fois qu'on a renoncé au christianisme. Au contraire, je dirais qu'en fait, il y a la possibilité de promouvoir une justice, d'être réconcilié avec une justice qui soit incomplète. Ou un bien qui soit incomplet, enfin, et au fond, le faire quand même. Je pense que c'est ça qui, de mon point de vue, mais où le christianisme est une ressource pour la pensée et pour l'action.
au fond, elle est réaliste, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très réaliste.
C'est ça, c'est qu'en fait, très souvent, il y a un militantisme du bien dans toutes les causes qui est très absolutisant quelque part, enfin, qui veut une réalisation pleine et entière. Genre, si mon action ne débouche pas sur la résolution des problématiques écologiques, par exemple, en fait, je vais pas m'y engager. Parce qu'en fait, je sais que je vais pas, que même là, un effort collectif conséquent, même le mien,
je vais pas y arriver, quoi.
N'arriveront pas à le réaliser pleinement. Et ça peut générer, au contraire, un désespoir ou un découragement. Et je pense qu'en fait, une perspective chrétienne de réconciliation avec un bien incomplet ou une incapacité à le réaliser pleinement, c'est encore la possibilité d'agir. Je pense que ça, c'est une dimension qui, à travers justement le regard de Dieu, du Christ sur le monde, qu'au fond il s'est sacrifié, mais sans avoir un objectif de réalisation du bien sur terre, et c'était pas le message, en fait, c'était pas l'incarnation, c'est pas la pleine réalisation du bien non plus, c'est une manière de nous indiquer en fait une possibilité pour nous, justement, de le viser dans la chair et dans les difficultés que cela implique.
Lui-même ne le possédait pas, ce bien.
Ouais, il renvoie toujours à un autre.
Ouais, c'est ça.
Et c'est là aussi il y a quelque chose. Là, on était plutôt dans le versant ce que André Gounel il appelle la foi malgré.
Un théologien réformé français.
Ouais. Et il y a aussi la foi. Je sais plus comment ce qu'il dit ça. La foi pour ou la foi parce que c'est aussi pour moi la foi une manière de célébrer la beauté du monde, de dire ce monde c'est pas juste. Alors je sais, les biologistes me diront que voilà, il y a des manières d'aimer, enfin essayer de comprendre, c'est aimer le monde aussi, mais voilà, quand tu vois un beau paysage, quand tu vois je sais pas, tu t'attendris de d'une interaction avec un enfant, quand enfin voilà, toutes ces belles choses qu'on peut vivre et voir, de dire ça pointe vers le créateur, vers Dieu, la poésie, la littérature, etc. Tout le cinéma, que là dans la recherche du beau, il y ait aussi quelque chose de l'ordre de d'une émotion qui est suscitée, qui me renvoie à il y a plus que ce monde. Pour moi, c'est l'autre versant de cette foi qui fait que après, il y aurait plein de théories. Enfin, il y a plein de philosophes qui ont conceptualisé ça, le phénomène saturé, des choses en lien avec le sentiment esthétique. Moi, je relis ça aussi avec le sentiment esthétique, de dire ça fait aussi partie de ce qui nourrit et de ma foi, en fait, finalement.
Je nous coupe un peu, c'est vrai. Les mecs, ils auraient pu répondre des trucs simples, genre être chrétien, c'est suivre le Christ. Être chrétien, c'est se lier à cette tradition. Être chrétien, et on est quand même sur un truc. Et justement, dans cette tradition réformée protestante, je pense qu'on essaie de toucher au côté pas identitaire, en fait, du
mais c'est aussi identitaire. Pour moi, c'est aussi identitaire. C'est l'ancrage dont tu parlais. Pour moi, c'est hyper important, la tradition, en fait. Et ça me donne aussi une identité de dire, on vient de quelque part. On appartient à cette tradition. Il y a un langage qui est déployé, qu'on peut questionner, mais on se situe toujours par rapport à quelque chose d'autre. Et pour moi, la foi, c'est aussi ça, c'est se situer par rapport à une certaine tradition.
Mais qui n'est pas une fin en soi.
Mais justement, elle pointe vers quelque chose d'autre. En fait, dans tout ce qu'on a dit, ça m'a frappé. C'est hyper, moi, un des théologiens réformés. Alors, certains disent que c'est pas un théologien, mais bon, moi, je pense que c'est un théologien. C'est Jacques Ellul. Qui a travaillé sur la technique, qui a travaillé, etc. Mais lui, il a une pensée qui est très réformée aussi. Il est très dans cette foi malgré quelque chose. Et puis, il est très calviniste aussi par certains aspects. Donc, tout ça, ça appartient en fait à une certaine tradition théologique,
qui est située, conceptuelle,
qui est située historiquement et puis qui fait partie de comprendre le monde tel qu'il est à partir de sa propre tradition.
Je pense qu'on arrive gentiment au bout. On a aussi besoin d'entendre d'autres nous parler. On a bien déjà eu un bon round d'échange autour de qu'est-ce que ça change d'être chrétien. Puis maintenant, je vais vous proposer de passer aux capsules. Dans chaque épisode, on prend le temps d'écouter des voix qui viennent de l'extérieur, qui ont été préenregistrées. Et là, on va écouter deux enregistrements qui viennent une fois de Micha et d'Aurélie. C'est parti.
Pour moi, on voit qu'une personne est chrétienne principalement dans son savoir-vivre, son savoir-être. Quand cette personne a quelque chose de Jésus dans son caractère, son attitude, dans ses pratiques, ses mots et ses actions. On reconnaît une personne chrétienne à son amour, à sa joie, à sa paix, son espérance, sa douceur, entre autres. Et en même temps, je connais des personnes chrétiennes qui sont parfois bien loin de ce savoir-vivre, qui sont parfois égoïstes et méchantes, cyniques et amères. Ce savoir-vivre et savoir-être, une personne chrétienne, elle est appelée à les pratiquer, à les cultiver. Mais ben, on les trouve aussi dans d'autres religions et dans l'humanisme séculier, ce qui rend parfois difficile à se dire « Ah ben, on reconnaît cette qualité, donc c'est une personne chrétienne ». C'est peut-être frustrant, mais je crois que ce qui fait l'essence même d'une personne chrétienne, sa foi, elle se voit pas, on ne peut pas la mesurer. Et c'est parce qu'elle nous est donnée par Dieu, et oui, elle change tout, mais les fruits, ils peuvent prendre du temps à pousser.
C'était donc la voix de Micha Weiss, qui est pasteur dans le canton de Neuchâtel, et qui répondait à la question que je lui ai posée, qui était, au fond, ça change quoi d'être chrétien ? Un chrétien, ça change quoi ? Puis on va entendre maintenant la voix d'Aurélie.
Pour moi, être chrétienne, c'est un chemin de transformation face à soi et à autrui. C'est oser se remettre en question, aller à la rencontre des autres et accepter d'être déplacé, de ne pas avoir toujours le dernier mot. Être chrétienne, c'est cultiver l'espoir et l'espérance par des actes du quotidien pour honorer nos vulnérabilités et rendre le monde encore plus accueillant. Se redécouvrir aimé, aimable et cultiver l'amour qui donne de la force et de la liberté. C'est savoir que la résurrection est l'horizon de notre devenir. Ce n'est pas gnangnan du tout, c'est exigeant, c'est beau. C'est se dresser aussi contre ce qui contrevient à la dignité de la personne, quelle que soit son histoire. Pour moi, être chrétienne, c'est un élan à nourrir, un chemin à redécouvrir chaque jour avec le Christ et les personnes qui nous entourent.
Et là, nous étions avec Aurélie Netz, qui est anthropologue, mais aussi qui travaille en aumônerie pour l'Église réformée vaudoise. Voilà, de regard quand même, je trouve que c'était des couleurs un peu différentes, hein, entre ces deux réponses à la question, voilà, être chrétien, ça change quoi, ça fait quoi d'être chrétien ? Moi, je suis marqué par le côté d'une part très solaire, hein, qu'il y avait dans la réponse d'Aurélie, où ça rejoint pour moi ce qu'il y avait quelque chose dans ce que tu as dit, Sophie, avant sur le beau, quelque chose de plus beau, de plus aimant, de plus accueillant, qui honore la fragilité aussi dans ce qu'on offre ou dans ce qu'on est quand on est chrétien. Et en même temps, il y avait quelque chose, elle a aussi dit quelque chose que j'avais pas entendu comme ça dans ce que nous on a discuté, qui touchait à la dignité de la personne.
La dimension de résistance aussi, ouais, la dimension qui était de résistance, présente.
Ouais.
L'affirmation de quelque chose d'agissant, et voilà, peut-être on introduit un petit peu notre thématique, mais qui s'oppose à quelque chose de l'ordre d'une certaine obscurité dont on parlait tout à l'heure, bah peut-être qu'on est appelé aussi à témoigner d'une résistance à ça.
Et chez Micha, du coup, dans sa réponse, c'était très orienté sur porter Jésus. Enfin, là du coup, c'était ça aurait été la réponse sans doute plus simple au milieu de tout ce qu'on a dit. Mais moi, je pense qu'il y a un gros lien, hein, entre leurs deux réponses, mais où ça se contredit pas du tout. Mais c'est dans on peut vivre ça, justement, de ce que tu viens de dire, hein, justement. Parce qu'on porte une qualité de Jésus, peut-être on porte des qualités de Jésus à un moment donné, ou quelque chose de ce registre-là, quoi, en soi. Ouais, voilà, c'était un peu ma réaction à chaud à ce qu'ils ont dit, mais pour vous, un éclat que vous retenez de ces capsules, ou qu'est-ce que ça vous amène à penser plus loin ?
Oui, moi j'ai été rassuré qu'au fond, il n'y ait pas de réduction, on va dire, de la posture chrétienne à une sorte d'éthique des vertus. En fait, à aucun moment dans les témoignages, il y a eu cette idée qu'en fait, il y avait vraiment tout un ensemble de dispositions, qu'il y avait une spécificité, ouais. Comme s'il y avait, il pouvait y avoir en fait une vie chrétienne spécifique à côté d'une vie humaine. Il y aurait une vie chrétienne comme telle.
À côté,
ouais. À côté. Et en fait, oui, ça m'a rassuré. Et en fait, j'adhère ouais, pleinement à ce qui a été dit. Et en fait, ça vient indiquer aussi que une vie chrétienne, ça change tout et ça change rien, et qu'en fait, c'est pas forcément perceptible.
Et même, est-ce que c'est des fois la bonne question, hein, d'ailleurs
Est-ce que c'est la bonne question aussi derrière, effectivement.
En tout cas, on est très réticents à venir avec une liste de courses ou une liste de checkbox. Enfin, aucun des deux n'a dit ça.
Oui.
Je crois que Micha était peut-être encore dans sa réponse celui qui a le plus dit il y a un savoir-vivre, un savoir-faire lié à la personne de Jésus, quelque chose de profilé quand même. Et en même temps, dans le résultat, comment c'est la différence, elle n'est pas toujours évidente à faire, et c'est pas une garantie non plus d'ailleurs. C'est pas parce que tu te revendiques du Christ qu'en fait t'es dans ses pas, pour le dire comme ça.
Oui, ça peut même être oppressant.
Ouais.
Quelqu'un qui se revendique au quotidien de la, voilà, de la vie du Christ, qui essaie d'en performer les différentes actions, et pour être complètement à côté en fait de la réalité de ce que signifie cette promesse et cette parole. Il peut y avoir quelque chose de profondément inauthentique dans la nécessité que j'aurais d'imiter en fait la figure du Christ. Oui, c'est vrai que on pourrait s'attendre à certains types de comportements, mais en l'occurrence, rien ne les cautionnerait. Et je pense que du point de vue de l'extérieur, l'assignation du chrétien à la vie chrétienne est plutôt une forme de préjugé.
C'est-à-dire de s'attendre à ce que le chrétien ait une vie chrétienne, oui, ou quelque chose comme ça. D'attendre que le chrétien se comporte en bon chrétien.
Oui, en fait, c'est plutôt. J'ai l'impression que c'est plutôt une injonction qui vient un peu de l'extérieur, de ceux justement qui voudraient pointer sur les insuffisances, on va dire, du chrétien devant
des exigences morales, etc.
Voilà, exactement. Alors qu'en fait, le chrétien est dans les mêmes affres, les mêmes tourments,
les mêmes questions, quoi.
Et les mêmes questions, et les mêmes incapacités. Que tout à chacun.
Par contre, il croit en un rayonnement, apparemment. Et il croit en quelque chose de bon et d'une promesse de quelque chose de...
Oui, tout à fait. Mais disons que très souvent, on a plutôt quelque chose qui se place de l'extériorité. C'est-à-dire, au fond, c'est comme les valeurs chrétiennes en Europe, par exemple. Au fond, on est assigné à certains types de valeurs sans devoir jamais les qualifier. Ou savoir véritablement ce que ça signifie. Donc, en fait, là, le risque de voir la vie chrétienne comme un en soi, voilà, est plutôt profilé en extériorité, je dirais plutôt.
Au fond, ça vient pas des chrétiens eux-mêmes, quoi. Ou en tout cas de ce que nous on propose là, les deux capsules et notre discussion. Quoi.
C'est ça. Justement, les capsules confirment que au fond, ça n'émane pas des chrétiens que de revendiquer une vie chrétienne, que de l'attente fantasmée. Des personnes qui sont extérieures au christianisme ou qui savent pourquoi elles sont pas chrétiennes au vu d'une vie chrétienne qu'elles s'imaginent être défective.
C'est un jeu d'image, en fait.
Exactement, c'est représentation. C'est un jeu de miroir à d'image. Et peut-être que parfois, des personnes résistent à l'idée de devenir chrétien parce qu'ils ont peut-être un imaginaire de ce que signifie être chrétien, qui est peut-être trop profilé, en fait, par rapport à des exigences morales ou spirituelles ou une suivance du Christ ou autre. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent générer une forme de résistance. Ou alors, en termes de piété aussi. Ça peut être aussi...
des manières de faire, ou ça ne nous parle pas, ça nous paraît vieux, ou au contraire, aliénant, j'en sais rien.
Exactement, oui.
Ok, on est toujours à la suite du tour de table, du coup, en réaction à ces capsules. Sophie.
Ouais, c'est presque plus à la suite que j'ai envie de réagir, mais sur ce côté, pour moi, on retrouve ce qu'on disait quand on s'est présenté, la dimension du récit, ça s'incarne dans un récit. Et pour moi, ce qui évite de tomber dans le moralisme, c'est justement le récit. Et c'est pour ça que, bah oui, autant, je pense que sur les questions de péché dont on parlera peut-être un jour, Paul est très utile, mais l'avantage d'avoir ces évangiles, d'avoir cette vie du Christ, d'avoir ces regards multiples aussi sur ce qui s'est passé, ça nous évite de tomber dans la grille, la liste de courses, comme tu disais, autour de ça, et plus encore d'avoir quelqu'un dont l'histoire est marquée par le cheminement.
Oui.
Moi, ça me fait beaucoup penser à c'est Christian Bobin, ce poète qui a écrit L'homme qui marche, le Christ au coquelicot. Il y a à chaque fois cette figure un peu insaisissable qui est liée au beau, mm-hmm, à la beauté esthétique des mots, du pouvoir évocateur de la célébration de la nature.
Ou des gestes, hein, selon comment.
Voilà, ouais. Exactement. Et il y a cette image des pas de cet homme qui est en mouvement et qui nous invite aussi à être en mouvement. Et être en mouvement vers l'autre, être en mouvement vers Dieu, et puis avancer à sa suite. Et là, pour moi, il y a une forme de remède à tout ça. Et peut-être qu'on a le versant aussi... moi, je parlais d'habiter dans le monde et cet ancrage. S'il n'y a pas aussi le mouvement, ça ne fonctionne pas.
Ouais.
Et c'est peut-être le risque du christianisme. Quand j'ai fait mon mémoire sur la ville, donc la notion d'habitation, ça me parle de fou. En même temps, l'une des conclusions de mon mémoire, c'était que les récits qui sont vraiment inspirants, c'est ceux qui n'enferment pas. Et il y a vraiment cette exigence d'ouvrir la brèche. Et peut-être que c'est ça qu'on est appelé à faire en tant que chrétien aussi, si on est appelé à faire quelque chose, c'est faire en sorte que, soit la blessure dont tu parlais, mais peut-être aussi simplement nos vies au quotidien, propose une ouverture, une brèche où Dieu peut s'engouffrer. Sinon, Dieu, on le laisse... Dans les limbes qu'on a plus ou moins explorées, parce que le ciel, il n'est pas dans l'espace, la métaphysique a été grandement questionnée, la philosophie, etc.
Ouais, Dieu n'est pas que dans nos
points. On n'a toujours pas trouvé.
Reste, quoi.
Ouais, voilà. Où est-ce qu'il est Dieu si lui, on ne lui laisse pas une place à l'intérieur de nous pour pouvoir le faire aussi agir dans le monde. Et c'est ça qui est touchant dans ces témoignages. C'est de dire, en fait, ça doit quand même porter du fruit. Et on résiste beaucoup à cette histoire de la moralité. On n'aime pas ça. Je dis ça humainement parlant, mais aussi...
Moi, j'ai dit que je n'aimais pas ça.
Voilà, exactement. Et aussi, en tant que réformé, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et pourtant, d'une part, les grands réformateurs ont quand même conceptualisé ça un peu. Ça a fait partie de la vie chrétienne. Mais je pense que c'est pour cette raison-là. Parce que on a une espèce de conscience que ça doit quand même porter du fruit, que ça doit quand même changer quelque chose. Mais ça ne doit pas enfermer, ni nous-mêmes, c'est ce que tu disais. Et là, on aurait peut-être beaucoup de choses à dire sur les dérives du christianisme. Ni les autres, les enfermer dans une certaine vision morale ou un rejet. Donc, je pense que c'est hyper riche ce qu'on vient d'entendre aussi.
On arrive gentiment au terme. Ça me fait sourire parce que autant le premier épisode où on a juste raconté à partir de nous notre parcours de foi, je trouve que c'était encore assez simple de rester autant là où tout d'un coup on essaie de définir quelque chose qui nous est commun. Ça tourbillonne. Et vous nous avez suivis dans ce tourbillon, j'espère jusque-là. En tout cas, bravo déjà. Et puis, à la fin de chaque épisode, on essaie de proposer une petite stimulation pour une réflexion personnelle. Et puis aujourd'hui, pour cet épisode, c'est Dimitri qui s'en charge.
Oui, alors j'essaye une petite synthèse pour la réflexion et surtout pour avoir des ouvertures pour la suite. Ce que les discussions m'ont aidé à réaliser, c'est que finalement il n'y a pas de vie chrétienne bien définie qui obéirait, on va dire, à un certain canevas, à certains types d'activités, à certains types d'appartenance. Je pense qu'on a vraiment décloisonné en fait ce que signifiait cette vie chrétienne, qu'elle se voulait flexible, ouverte, qu'elle portait ce côté, on va dire, indéfini, et qu'en fait elle aurait été très difficile vu de l'extérieur de distinguer quelqu'un qui serait dedans ou dehors. Et en fait, la réflexion sur laquelle on aimerait vous amener s'orienterait plutôt du côté de l'ouverture, en fait, de la disponibilité. peut-être qu'une vie qui serait à l'écoute, qui prendrait le temps, qui aurait des moments justement pour accueillir quelque chose qui vient d'ailleurs, en fait. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être l'art, ça peut être la poésie, ça peut être la littérature, ça peut être des moments de partage communautaire. Et qu'en fait, c'est peut-être la vie, les fondements de la vie chrétienne, s'il y en avait un, ce serait peut-être d'être à l'écoute et de s'ouvrir et d'être disponible. Mmh. Et ça peut commencer par des gestes très simples de disponibilité, d'écoute d'un ami, d'un proche, de quelqu'un, même dans le bus. Parfois, des personnes s'adressent à nous dans les transports publics. Ça peut être des moments, en fait, voilà, qui sont tout à fait incongrus aussi. Pour moi, ce serait peut-être un des éléments les plus prégnants de ce que pourrait être une vie chrétienne. Et être aussi peut-être disponible à une voix, enfin voilà, de Dieu, qui émane de ces moments, en fait, qu'on ne peut pas anticiper, qui sont de l'ordre de l'inattendu. Mmh. Voilà, donc peut-être petite piste pour la suite. Est-ce que je me rends disponible à cette parole de l'autre? Mmh.
Merci pour cette proposition et un appel d'attention à la disponibilité. Merci à vous qui nous avez écoutés ici jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager ce contenu si ça vous intéresse, à l'évaluer sur Spotify, Apple Podcast, où c'est que vous l'écoutez. Et nous, on se réjouit de vous retrouver dans le prochain épisode. On va reprendre une thématique qu'on a déjà un peu spoilée dans celui-là, mais voilà, il sera question de ce qui fait nous encoubler. Portez-vous bien, à bientôt.